autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, sur les traces d'une nouvelle espèce humaine aujourd'hui disparue, l'homme de Lusson, Homo lussonensis, qui a fait la une de la prestigieuse revue scientifique Nature. Quelques dents, des os de pied datés d'il y a plus de 50 000 ans, présentant des caractères à la fois archaïques et modernes, découverts sur une île des Philippines par notre invité, le paléoanthropologue Florent Détroit, ce qui porte désormais à 6 les espèces du genre Homo contemporaines à la nôtre qui ont peuplé la Terre à l'époque où l'humanité se conjuguait au pluriel. Comment expliquer une telle diversité de la famille humaine? Pourquoi et comment ces espèces ont-elles disparu au profit d'une seule, la nôtre, Homo sapiens? Comment décrire tous ces autres ancêtres de l'humanité? Se sont-ils croisés? Comment refaire notre album de famille en y incluant encore un nouveau venu? Voilà ce à quoi nous allons tenter de répondre autour de la question: qui était Homo lussonensis? Bienvenue. Bonjour Florent Détroit.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager cette formidable découverte d'une nouvelle espèce humaine disparue. Vous êtes paléoanthropologue, maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de la variabilité biologique et culturelle des Homo sapiens en Afrique et en Asie, un paléoanthropologue de terrain, on y viendra, Florent Détroit. C'est sur un de vos terrains favoris, en Asie du Sud-Est, dans une grotte de l'île de Lusson, aux Philippines, que vous avez découvert avec les paléontologues philippins, ce nouveau représentant d'une espèce disparue, Homo lussonensis. C'est un peu anecdotique, mais pourquoi l'avoir nommé ainsi?
Pourquoi lussonensis? C'est pas très original comme choix. En fait, ce nom d'espèce lussonensis, il est déjà utilisé pour plusieurs animaux ou plantes qui sont endémiques de l'île de Lusson, c'est-à-dire qu'on ne trouve que là-bas. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait preuve de beaucoup d'originalité, mais évidemment, on a pris ce nom d'espèce qui correspond à l'île, là où se trouve cet Homo lussonensis, et ça convenait très très bien, donc on n'a pas hésité très longtemps.
En tout cas, Homo lussonensis, il a déjà fait la une de la prestigieuse revue scientifique Nature, et pour cause, c'est pas tous les jours qu'on découvre un nouvel ancêtre, une nouvelle espèce humaine disparue. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, si j'ose dire? Un petit os de pied, une dent
Au tout départ, c'était... Alors si je remonte à l'origine, c'était en 2007.
Et oui, c'était en plusieurs temps. Hein,
voilà, c'était en plusieurs temps. Donc moi, j'étais aux Philippines en 2007. D'ailleurs, vous l'avez précisé, hein, ma spécialité au départ, ce sont les Homo sapiens. Et là, évidemment, Homo lussonensis n'est pas un Homo sapiens. Mais l'origine de cette histoire, donc j'étais aux Philippines pour travailler sur un site qui se trouve sur l'île de Palawan, où se trouvent les plus anciens Homo sapiens connus jusqu'à aujourd'hui aux Philippines, justement. Et donc on emmenait des étudiants sur le terrain, dans cette grotte de Tabon. Et mon collègue philippin, Armand Miraes, qui est le second auteur, le deuxième auteur de l'article qu'on a publié dans Nature, est venu vers moi en me disant « Dis donc, tu te rappelles, on était allé fouiller dans la grotte de Calao, là, on avait trouvé plein d'ossements
à
Lusson, cette fameuse grotte de Calao. On avait trouvé plein d'ossements d'animaux dedans, mais au milieu de ces ossements, il y a un ossement qui semble être humain. Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors il me présente ça et je le regarde, je lui dis « Oui, effectivement, je suis d'accord, c'est probablement humain, mais il a quand même une morphologie très très particulière, très curieuse. » Donc c'était finalement le tout premier reste jamais découvert d'Homo lussonensis. À l'époque, on ne le savait pas que c'était Homo lussonensis. C'est cet os de pied, là, ce métatarsien, que nous avons étudié ensemble et publié en 2010. À l'époque, on avait conclu, on avait évidemment que ce petit os de pied, on avait conclu que c'était probablement un os de pied d'un petit Homo sapiens, avec quand même pas mal de particularités comparées à la morphologie qu'on retrouve chez Homo sapiens, chez nous aujourd'hui. Et ce qui était très très important, c'est que dans cette première étude, on avait un collègue à nous, Rainer Grün, qui est dateur, avait fait une datation de ce fossile, de cet os de pied, qui avait indiqué un âge d'au moins 67 000 ans. Et ça, c'était une très très grosse surprise, parce que là, on se retrouvait avec entre nos mains le plus vieux reste humain jamais découvert aux Philippines. Donc ça a eu un peu d'effervescence et tout ça à l'époque. Et comme je vous le disais, bon, on n'allait pas réinventer l'évolution de l'homme avec un doigt de pied, hein, juste. Mais on avait bien, on soupçonnait quand même que non seulement c'était très ancien, mais en plus, il y avait des choses très intéressantes.
Et le plus frappant hein, dans toutes ces histoires, c'est tout de même non seulement qu'il y a des choses très intéressantes, très anciennes, mais c'est aussi la diversité finalement de toutes les espèces humaines disparues qui ont peuplé la Terre. Comment refaire du coup notre album de famille du temps où l'humanité se conjuguait au pluriel? Je propose un petit récapitulatif dans l'ordre chronologique de toutes ces découvertes, de toutes ces espèces du genre homo exhumées ces dernières années. C'est le mix à remonter le temps d'Hugo Violas.
Retour sur un événement important en Afrique du Sud, la découverte d'un nouvel ancêtre de l'homme baptisé Homo naledi.
L'analyse d'un crâne datant de 18 millions d'années relance en effet la thèse d'une nouvelle espèce humaine. Le crâne en question a été découvert en 2003 sur l'île de Flores en Indonésie, d'où le nom de son propriétaire, baptisé l'Homo floresiensis.
J'étais un grand chasseur. J'ai façonné la pierre. J'ai 350 000 ans. J'ai peuplé toute l'Eurasie. J'ai aimé la beauté. J'ai honoré mes ancêtres. J'étais un homme. Néandertal.
Premier sujet de ce journal, l'annonce mardi de la découverte de fragments de crâne de l'homme de Denisova.
C'est en 2010 qu'on a retrouvé en Sibérie, dans la grotte de Denisova, une phalange dont l'analyse ADN a révélé qu'il ne s'agissait ni d'Homo sapiens, ni des Néandertaliens.
C'est une découverte qui bouleverse nos certitudes sur les origines de l'humanité. Une équipe internationale dirigée par un professeur du Collège de France a mis au jour des restes d'Homo sapiens vieux de 300 000 ans au Maroc.
C'est rien moins qu'une nouvelle espèce humaine dont la revue Nature se fait aujourd'hui l'écho. Alors cette nouvelle espèce s'appelle Homo luzonensis, elle a été découverte sur une île aux Philippines, celle de Luzon, d'où son nom. L'Homo luzonensis aurait au moins 50 000 ans.
Ça va rajeunir personne.
Au moins 50 000 ans pour Homo luzonensis que vous avez découvert, Florent Détroit. Alors par rapport à toute cette foison d'espèces humaines qui ont cohabiter à un moment sur Terre, à quoi il ressemblait lui, Homo, l'homme de Luzon?
À quoi ressemblait l'homme de Luzon? C'est une très bonne question que beaucoup de gens nous posent, et nous les premiers. Évidemment.
Parce que vous avez retrouvé donc un cet os de pied, oui. Quelques dents.
C'est ça. On a parlé juste avant de cet os de pied découvert en 2007, mais la plupart des découvertes ont été effectuées en 2011, puis en 2015. Et on a un ensemble de 13 éléments fossiles. Alors 13, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est surtout pas beaucoup par rapport à des éléments qui nous permettraient d'avoir une idée de la corpulence, de la stature, ce qu'on n'a pas dans notre assemblage. Donc c'est très difficile de dire à quoi il ressemblait, mais on a quand même pas mal d'indices sur les dents, notamment les dents sont minuscules, elles sont vraiment toutes petites, et d'une manière générale chez les primates, chez les grands singes, chez les hominines, il y a une relation assez forte entre la taille des dents et la stature, donc on en déduit que très probablement Homo luzonensis devait être petit. Alors ensuite, savoir petit à quel point, c'est la question que tout le monde nous pose, parce qu'évidemment, avec la comparaison aussi avec l'homme de Flores,
tout petit homme qu'on a surnommé le Hobbit, hein,
voilà,
découvert sur une petite île indonésienne,
sur l'île de Flores, qui était vraiment très petit, hein, moins d'1m10 à l'âge adulte. Nous, on peut pas être aussi précis pour l'instant. Il nous faudrait que dans le futur, on découvre par exemple un fémur, l'os de la jambe complet d'un individu adulte. On en a un, mais c'est un enfant. Donc, on peut pas savoir la taille.
Mais vous savez que c'est celui d'un enfant, et vous savez aussi que cette Homo luzonensis est du genre Homo, qui fait partie de notre grande famille humaine.
Il fait partie de la famille humaine. Il fait partie du genre Homo, comme nous, hein, Homo sapiens. On appartient au genre Homo. Ça, comment on le sait, c'est vraiment, sans rentrer dans la technique, chaque élément fossile, évidemment, on le décrit, et puis on va prendre chaque caractère un par un, et puis on va comparer avec ce même caractère chez d'autres espèces d'Australopithèques, d'autres espèces du genre Homo, les Homo erectus, l'homme de Néandertal, que sais-je encore. On va faire toutes les comparaisons, et là, on va se rendre compte que si on comptabilise tous les caractères, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on retrouve dans le genre Homo. Et c'est une fois qu'on assemble tous ces caractères ensemble, on a un paquet, et ce paquet, on regarde chez quelle autre espèce on retrouve ce même paquet de caractères, et c'est là qu'on constate qu'il ne correspond à aucune autre espèce connue jusqu'à présent. Même s'il y a plus de ressemblances avec le genre Homo, ça ne correspondait à aucune des espèces déjà décrites dans ce genre, d'où la décision d'en faire une nouvelle espèce.
Et comment se fait-il, on s'en est rendu compte dans ce mix, qu'on ne cesse de découvrir de nouveaux représentants du genre homo? Parce qu'on a longtemps cru que d'abord on était nous les meilleurs, les seuls et ceux qui avions réussi, et que les autres c'était des ancêtres un peu sauvages. Or en fait non, il y a eu un moment sur Terre où il y avait en tout cas au moins 6 espèces du genre homo à peu près contemporaines.
Alors pendant longtemps on pensait qu'on était un peu tout seul avec notre cousin néandertal en Europe. Alors cousin néandertal selon les périodes qu'on rapprochait très proche de nous, même espèce, avec très peu de différence, ou au contraire qu'on éloignait très loin de nous. Non, néandertal, cette brute épaisse n'a rien à voir avec nous. Puis on a fait avec ça pendant pratiquement plus d'un siècle hein, en fait, jusqu'au moment où on a commencé à découvrir qu'il n'y a pas que du côté européen qu'il y avait eu des coexistences d'espèces avec notre propre espèce Homo sapiens. Et le développement des recherches en Asie orientale en particulier a permis de mettre au jour toute cette diversité assez incroyable. Donc Homo floresiensis, les hommes de Denisova, maintenant Homo lucenensis, d'hommes qui étaient contemporains d'Homo sapiens.
Et les embranchements, on y viendra. Il y a des découvertes récentes qui expliquent que cet homme de Denisova, on en retrouve des gènes chez les Tibétains d'aujourd'hui. Il y a quand même un point commun à ce genre homo, qui est en lien avec une question que nous pose un de nos fidèles auditeurs, Mokhtar Nian, de Richard Toll au Sénégal. Nous sommes tous sortis d'Afrique et toutes ces espèces du genre homo, enfin ces découvertes en Asie du Sud-Est ne changent rien au berceau africain.
Les berceaux restent africains.
Les sorties d'Afrique et les berceaux africains.
Jusqu'à preuve du contraire, avec même l'accumulation de toutes ces nouvelles espèces en Asie orientale, toutes ont une origine qui remonte à un moment ou à un autre à une sortie d'Afrique. Tout ce qu'on connaît, que ce soit notre propre espèce, bien sûr, Homo sapiens, mais même si on remonte plus loin dans le temps, ça correspond à des sorties d'Afrique. Dans le cas d'Homo lucenensis, c'est très hypothétique, hein, mais ce serait probablement des descendants d'Homo erectus qui devaient vivre quelque part en Chine, qui eux-mêmes, bien sûr, descendent de populations d'Homo habilis probablement sorties d'Afrique il y a à peu près 2 millions d'années.
Autour de la question, qui était donc cette Homo lucenensis, retour et genèse de votre découverte de cette nouvelle espèce disparue? Cette fois-ci, c'est Evelyne Heyer, anthropogénéticienne au Muséum, qui vous le demande.
Ah oui, alors j'ai une question pour Florent. J'aimerais savoir la première fois qu'il a trouvé un bout en fait de cet homme de Luzon, est-ce qu'il avait imaginé que ce serait finalement une trouvaille aussi remarquable? Parce que c'est des recherches qui ont été faites petit à petit. Et donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il a rêvé à un moment donné que ça pouvait être une trouvaille aussi extraordinaire?
Votre réponse, Florent Détroit?
Ma réponse, j'en ai déjà donné un petit morceau tout à l'heure à propos de la toute première découverte en 2007. Mais on va dire que celle-là, elle compte pas. Elle comptait beaucoup, hein, comme je l'ai dit auparavant.
Bien sûr, mais vous pensiez que c'était un Homo sapiens.
Voilà, on avait un seul élément, c'était très... Mais on avait remarqué toutes ces petites particularités. Par contre, en 2011, quand on est retourné sur le terrain, et que, alors là, on savait le niveau qu'on cherchait hein, pendant dans la fouille, celui où avait été découvert ce tout premier ossement de pied. Quand on a commencé à atteindre ce niveau-là, et que très vite, hein, en fait, en une ou deux journées, on a commencé à trouver d'autres éléments, d'autres fossiles humains. Déjà, on était très contents. Et puis, très très vite, en fait, je me souviens très bien, hein, d'une des dents. Donc, j'étais sur le carré de fouille, en train de fouiller.
Et une de ces dents,
voilà, avec d'autres collègues, évidemment, hein, c'est un travail d'équipe. Mais en la sortant et en la nettoyant comme ça rapidement dans les doigts, toute petite dent avec, c'est une prémolaire, avec trois racines.
Alors,
ça sent pas grand-chose, mais c'est extrêmement rare. En tout cas, c'est un caractère qu'on ne trouve pas chez nous, Homo sapiens. Donc, ça allait vraiment dans le sens de ce premier os de pied qui était très bizarre. Là, on commençait à trouver des dents également très bizarres dans le sens où ça ne correspond pas à ce qu'on connaît chez Homo sapiens de façon assez claire. Et puis très vite, les découvertes se sont enchaînées, et comme je disais, en deux jours, ces phalanges de pieds également. À chaque fois qu'on regardait, on se disait « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce qu'on est en train de découvrir ?»
Parce que ce qui vous étonnait, c'était ce mélange de caractères, archaïques et en même temps modernes, qui était donc du genre homo, mais différent de ce qu'on connaissait.
Tout était tout était très inattendu. À chaque fois qu'on trouvait un élément, en l'observant même très rapidement, c'était vraiment très inattendu par rapport, encore une fois, à ce qu'on connaît d'Homo sapiens. On connaissait à peu près l'âge, hein, puisqu'on avait les premières datations, 60 000 ans, un peu plus, 67 000 ans. Donc ça, visiblement, ça ne correspondait à rien de ce qu'on connaissait, en première impression. Après, évidemment, on était très contents, on a fait la fête, on a fêté ça le soir. Mais après vient le temps de la réflexion, de l'analyse, vraiment. Et ça nous a pris, certains collègues m'ont un peu charrié, mais c'est vrai que la plupart des fossiles découverts en 2011, la publication en 2019, ça fait 8 ans. Il faut du temps, on aurait peut-être pu aller plus vite, mais on aurait probablement bâcler certains aspects.
Oui, vous vouliez être complètement sûr.
Voilà, c'est l'aspect méticuleux d'être sûr de ne rater aucune comparaison, de pas se tromper dans certaines analyses.
Parce que vous avez aussi une particularité, ça c'est dans votre équipe, dans votre laboratoire, vous êtes à la fois sur le terrain et en laboratoire. C'est-à-dire vous menez des fouilles, donc sur place, en l'occurrence là, aux Philippines, et ensuite c'est vous aussi et votre équipe qui analysez.
Oui, on y tient. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Dans notre équipe, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que, alors c'est pas péjoratif, hein, mais on ne fait pas que du travail de laboratoire, on fait beaucoup de travail sur le terrain, on est tous les uns les autres impliqués dans d'assez nombreux travaux de terrain. Dans cet esprit, cette approche pluridisciplinaire où on se complète les uns les autres, chacun avec notre spécialité disciplinaire, hein, certains la datation, d'autres la géologie, d'autres tout ce qui est comportement culturel, d'autres donc moi la paléoanthropologie, mais tout ça commence vraiment pour la plupart des travaux qu'on fait dans notre équipe, ça commence sur le terrain.
Et sur le terrain, là, en l'occurrence, dans ces grottes, alors pourquoi dans ces grottes? Parce que c'est le seul endroit où, vu le climat du sud-est asiatique, ces restes peuvent avoir été conservés. Pourquoi dans ces grottes-là? Pourquoi fouiller? Quand vous y retournez, je comprends bien,
oui.
Pourquoi décider de ce terrain-là de fouiller?
C'est une grande question, hein, de savoir comment on arrive à identifier les sites préhistorique. En fait, il y a deux grandes catégories. Il y a les sites qu'on dit de plein air parce qu'ils sont en plein air. Donc là, c'est par exemple ce qu'on connaît beaucoup en Afrique de l'Est. Évidemment, la savane, il y a très peu de végétation et chaque saison des pluies va éroder et puis on regarde sur le sol ce que la pluie a fouillé toute seule finalement. Et là, les fossiles sortent de terre et ça permet de bien identifier les endroits où potentiellement il faut installer une fouille. L'autre situation, c'est celle où on se retrouve dans la grotte de Callao, c'est en grotte ou en abri sous roche. Là, c'est totalement différent puisque la grotte ou l'abri sous roche va acter comme un piège à sédiments. Ça va venir piéger la terre, le sédiment, tout ce qu'il contient, va surtout le conserver, puisque à l'abri des intempéries. Et puis, bien sûr, s'ajoute le fait que les hommes de tout temps ont essayé de s'abriter. Et évidemment, ils avaient pas mal d'activités. Alors, ils vivaient pas tous dans des grottes, mais au moins des périodes où ils venaient se réfugier ou dormir dans les grottes. Donc, on a à la fois des endroits où il y avait une forte concentration d'hommes par le passé, et des conditions très très propices à la conservation de ces restes. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors ensuite, il ne s'agit pas de fouiller toutes les grottes, parce que alors ce serait absolument impossible. Le massif de Callao, où se situe la grotte de Callao, il y a des centaines de grottes. C'est un tout petit massif, et il y en a des centaines. Là, c'est un long travail de prospection. Alors comment on fait? On visite les grottes, et puis on regarde ce qui se trouve à la surface. Souvent, on trouve des éléments remonté par un animal fouisseur ou des choses comme ça, des outils de pierre taillée, on se dit tiens, et puis des fois on a la chance de trouver un animal qui a fait un terrier un peu plus profond, puis on voit le début du remplissage archéologique, on voit qu'il y a une petite stratigraphie, et puis si c'est prometteur, on fait un petit test qui nous permet de sonder, en fait, de sonder les premiers centimètres du remplissage. La plupart du temps, on trouve rien. Hein.
Et oui,
c'est ça qui est important à relever.
Rappeler qu'on fouille, et
voilà,
une découverte que vous avez faite, c'est quoi? C'est le Graal pour un paléanthropologue, c'est rarissime.
C'est le Graal,
quand même.
C'est vrai que c'est extrêmement gratifiant, et puis ça donne une visibilité justement à tout ce qu'on fait. Quand je disais juste avant que la plupart du temps, on trouve rien, c'est pas vraiment vrai. Alors des fois on trouve rien, c'est-à-dire que le site, il y a rien dedans, on abandonne. Et puis des fois on passe des années à fouiller un site qui est extraordinaire, on trouve tous les éléments qui se rapportent à la vie d'un groupe d'hommes sans jamais trouver le moindre petit reste d'un de ces hommes.
Ah,
Et ça, c'est frustrant.
Alors, c'est frustrant, mais ce qui est important, c'est que tout ce qui est découvert dans ce genre de site, c'est ce qui fait vraiment la base de nos connaissances en préhistoire.
Bien sûr.
Des sites fantastiques. Combien de sites fantastiques ont livré tous ces éléments relatifs à la vie de différentes espèces d'hommes préhistoriques ?
Comment vivaient ces hommes ? Comment vivaient ces hommes dans ces régions tropicales d'Asie, finalement, où on ne les attendait peut-être pas? Est-ce que ça veut dire aussi que dans ces régions tropicales d'Asie, où j'imagine que les fossiles ne se conservent pas si bien que ça, il pourrait y avoir d'autres espèces du genre homo, enfin d'autres, oui
Très très probablement. Non seulement tropical, d'ailleurs, il y a énormément de travaux qui s'intéressent aux adaptations biologiques, mais aussi culturelles, à la vie en forêt tropicale. C'est un peu une espèce de paradoxe de la préhistoire, c'est-à-dire qu'on sait que nos très très vieux ancêtres et nos proches cousins chimpanzés viennent de la forêt tropicale, mais ensuite il y a tout un moment où il semble que tous nos plus vieux ancêtres vivent plutôt en milieu de savane, et un des débats, c'est de savoir, est-ce que Homo sapiens, c'est pas un des premiers à s'être réadapté à la vie en forêt tropicale? C'est compliqué de chasser en forêt tropicale. Il faut des éléments comme des sarbacanes.
Homo sapiens, voilà. Ça va être revenu dans la forêt.
Alors, c'est un peu simpliste, mais il y a cette problématique, savoir si, par exemple, Homo erectus, est-ce qu'il a été capable lui aussi, alors très probablement, en tout cas en marge de forêt tropicale. Après, la forêt tropicale, ça pose problème aux préhistoriens, parce que, comme vous l'avez précisé, c'est très peu propice à la conservation.
Oui.
Ce qui fait que toute l'Afrique équatoriale, par exemple, on a très très peu d'éléments sur les zones préhistoriques qui occupaient.
Voilà. Ouais.
La seule solution, c'est d'avoir des abris sous roches ou des grottes, et en espérant que certains éléments se sont conservés et qu'on va les retrouver.
Autour de la question, pourquoi une telle diversité du genre homo, avant de s'arrêter sur les fragments de squelettes, hein, donc de Homo lusonensis, os de pied, fragments de fémur et de molaire, on continue de s'interroger sur notre espèce d'espèce humaine avec Maxime Nucci sur RFI alias Iodelis.
La question sur RFI.
Moi, drôle de bipède, de pieds, de mains, de oreilles, drôle des nerfs humaines, blanc sur ma peau, rose dans mes veines. Je vais, je viens, je bosse, je sème, un petit chemin, la vie est dérisoire de veine. J'appartiens à une espèce d'un certain genre. D'autres cœurs qui battent pareil sur ce petit grain, cette boule qui flotte dans l'univers. Pour se donner du sens, on s'invente, je sais, stratagème, renfort et consistance pour exister dans le système. J'appartiens à une espèce d'un certain genre, genre pas grand chose, genre presque rien, l'espèce du mauvais genre humain.
Espèce humaine, Maxime Nucci sur RFI. Autour de la question, qui était Homo lusonensis et comment définir une nouvelle espèce humaine à partir de quelques restes fossiles découverts dans une grotte sur l'île de Luzon aux Philippines par notre invité, le paléoanthropologue Florent Détroit. Piste de réponse d'un autre paléoanthropologue avec qui vous, Florent, et les chercheurs philippin, avait co-signé cette étude parue dans Nature, Guillaume Daveur, spécialiste de l'évolution du squelette humain au laboratoire Palévoprime de l'université de Poitiers. Notre reporter Charlie Dupio l'a rencontré, Guillaume Daveur, devant les moulages en 3D qui ont servi à définir cette nouvelle espèce humaine disparue. Quelques dents et quelques os de pied dont les originaux sont évidemment conservés à Manille.
Alors, ici, vous avez plusieurs éléments, à la fois des éléments dentaires, avec deux prémolaires et qui, ici, et qui appartiennent d'ailleurs au même individu, deux molaires. Ici, on a un autre élément dentaire, ici, c'est une prémolaire, qui fait donc partie de ce qu'on appelle Homo lucenensis. Alors, on a parlé des éléments dentaires, maintenant, je vais vous parler des éléments qui ne sont pas des dents et qui font, là encore, partie de ce qu'on appelle Homo lucenensis. Ici, c'est ce grand objet cylindrique ou quasi-cylindrique que j'ai entre les mains. On appelle ça une diaphyse, c'est-à-dire un bout d'os long qui correspond vraisemblablement à un fémur, mais qui appartenait à un jeune individu. Si on considère les données dentaires et ce fragment de fémur, ça nous permet de dire qu'on a au moins affaire, au niveau de l'ensemble de ces fossiles, on a là au moins trois individus qui sont représentés. Un juvénile et probablement deux adultes, d'après ces dents, justement. Pour replacer les choses en contexte, on a bien 13 spécimens qui constituent Homo lucenensis. Ce qui nous reste, en fait, ce sont des os des mains et des pieds. Donc ce sont effectivement des petits os. Si je commence par celui-ci, vous avez là un os qui constitue, chez nous, Homo sapiens, une partie de la voûte plantaire. C'est ce qui constitue la base des orteils, en fait. Là encore, on avait quelque chose de tout à fait attribuable au genre Homo. Par exemple, dans les choses assez curieuses, par contre, qui le distingue clairement d'un Homo sapiens actuel et même fossile, c'est cette partie ici qui est concave. Donc on se situe à l'extrémité de l'os. Extrémité qui est la plus proche de la cheville. Si on passe à d'autres éléments, on va rester sur le pied, on a une phalange. On se rend compte que la phalange d'Homo lucenensis ressemble presque à s'y méprendre, hein, si l'on peut dire, à celle d'un australopithèque. Donc un hominine qui aurait vécu au sens large du terme entre 2 et 4 millions d'années, à peu près. Or, pour rappel, chez Homo lucenensis, on sait que, enfin, les dates qui nous ont été livrées nous disent que Homo lucenensis a vécu au plus tôt entre 50 et 67 000 ans. Donc vous voyez, c'est un mélange de caractères. C'est vraiment ça qui est important, c'est ce mélange de caractères à la fois du sapiens, qui évoque du sapiens dans certains cas, et des formes d'hominines beaucoup plus anciennes dans d'autres.
Florent Détroit, c'est ce mélange de caractères archaïques et modernes décrit par Guillaume Daveur qui est le plus surprenant, comme si l'évolution nous révélait des surprises. C'est à la fois ce qui fait cette nouvelle espèce du genre Homo, mais en même temps, on n'est pas au bout de nos surprises. Il devait quand même avoir une drôle d'allure avec... c'était un drôle de bipède qui grimpait aux arbres, quoi, avec des toutes petites dents.
On n'est pas au bout de nos surprises,
et
effectivement.
C'est ça, hein.
Là, pour le coup, on a eu tout cet ensemble de caractères qui mis tout ensemble, a été vraiment tout à fait surprenant. Donc ça, c'est un peu le constat qui nous a amené à décrire cette nouvelle espèce dans le genre Homo. Maintenant, on va dire que ça ouvre tout un tas de recherches pour essayer de mieux comprendre. Alors, essayer de mieux comprendre, par exemple, l'origine d'Homo lucenensis, mais beaucoup de recherches sur les comportements, les aptitudes de manipulation et de locomotion d'Homo lucenensis.
Puisqu'effectivement, ça, on peut, de locomotion avec les os de pied, on peut, mais de manipulation, on peut aussi.
Manipulation, on a des phalanges de la main.
Ah, il y a des phalanges de la main.
Elles aussi présentent des caractéristiques très particulières et qui ont probablement, alors probablement, c'est-à-dire que si on prend les phalanges, les ossements de pied, les ossements de main, Guillaume Daveur l'a précisé juste avant, certains caractères rappellent énormément ceux qu'on retrouve chez les australopithèques qui vivaient en Afrique il y a plus de 2 millions d'années.
De la famille des primates et qui s'accrochaient aux arbres.
Alors voilà, ces caractères chez Australopithèque sont interprétés comme la preuve que ces Australopithèques faisaient un peu de bipédie au sol, mais grimpaient toujours dans les arbres. Donc ça, c'était il y a plus de 2 millions d'années en Afrique. Par rapport à ce qu'on pense connaître de notre évolution, ça semble logique. Mais tout à coup, on se retrouve avec ces caractères il y a 50 000 ans, aux Philippines, donc absolument rien à voir. Ces caractères qui avaient totalement disparu, entre guillemets, de toute l'évolution, la lignée humaine, jusqu'à cet Homo lucenensis. Alors ça, c'est le constat. Maintenant, il va falloir essayer de comprendre, avec des os de pied qui ont cette morphologie, comment est-ce qu'on peut marcher Et
c'est
comment...
des bipèdes, pour vous c'était des bipèdes, on n'est pas tout à fait sûr.
L'homme, le genre homo, est bipède, ouais. Qu'on appelle même bipède strict, c'est-à-dire qu'on ne fait que ça, depuis au moins 2 millions d'années. Alors c'est même un des caractères qui permet de définir le genre homo. Qu'est-ce que le genre homo? Alors ça c'est une grande question.
Bah oui,
un
c'est
des
une
caractères,
c'est la bipédie.
La bipédie stricte et obligatoire. C'est-à-dire vraiment on ne fait que ça. Et même certains collègues sont allés plus loin en parlant de bipédie endurante et même de course d'endurance. C'est-à-dire qu'on a une bipédie parfaite. Sauf que ça c'était bien beau, mais là avec notre Homo lucenensis, tout ça tombe par terre, parce que c'est clairement représentant du genre homo. Mais alors même si on va devoir travailler là-dessus, on a quand même de gros doutes sur le fait qu'il ait eu une bipédie parfaite, notre Homo lucenensis.
Parce que sa voûte plantaire, elle était bizarre.
Il devait quand même marcher de façon très bizarre avec ses os de pied. Et là, le corollaire à ça, c'est avec des pieds comme ça, est-ce qu'il pouvait grimper aux arbres? Et si oui, est-ce qu'il le faisait? Comment il le faisait? Est-ce qu'il le faisait beaucoup ou pas? Ça, c'est autant de questions vraiment fascinantes qui s'ouvrent à partir de ces découvertes.
Ces questions-là, vous l'imaginez parce qu'on voit bien toutes les questions que vous vous posez, même quand vous commencez à nous décrire, on essaye de s'imaginer un petit homme avec des pieds un peu tordus. Enfin, voilà. Est-ce que vous l'imaginez dans votre tête?
Est-ce que je l'imagine? Pas vraiment, pas encore.
Vous n'osez pas
Alors, j'ose pas. Pour la petite histoire, j'en ai discuté avec mon petit-neveu, Jules.
Et oui, qui a fait
qui en avait parlé à l'école, ouais. Dans sa classe.
Il a quel âge, Jules?
Il a 11 ans.
Ouais.
Il me demandait alors à quoi il ressemblait. Je lui dis, écoute, il dessine très très bien. Je lui dis, écoute, tu vas me le dessiner. Et il me l'a dessiné, donc c'est le premier qui a représenté cet Homo lucenensis. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait, plus sérieusement, ces aspects de locomotion. On va vraiment devoir travailler, appliquer des travaux très de biomécanique, par exemple, essayer de comprendre...
Comment il pouvait marcher,
comment
se déplacer...
Comment fonctionne un tel type de morphologie de pied, comment ça peut fonctionner en bipédie, en grimper, etc.
Des pieds tordus, des toutes petites dents, est-ce que cette découverte est à rapprocher? On a déjà commencé à en parler de l'homme de Flores, surnommé le Hobby pour sa petite taille, découvert sur l'île de Flores en Indonésie. C'est la question que vous posez, Cécile Estienne, de Cerveau et Psycho.
Est-ce que cette nouvelle espèce a des caractéristiques insulaires, un peu comme Homo florensis, qu'on avait découvert il y a quelques années, qui semble-t-il est plus petite notamment que les autres espèces découvertes sur le continent?
Donc est-ce que c'est à rapprocher sa petite taille? On dit que on appelle ça un phénomène d'insularité, c'est ça, quand finalement sur une île, hommes et animaux se développent moins et ont une plus petite taille qu'ailleurs.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'endémisme insulaire d'une manière générale. Donc il y a tout un tas de mécanismes d'évolution qui se mettent en place. Il y a des contraintes très particulières quand on est sur une île. Il y a peu de ressources alimentaires et pour faire simple, en général un animal qui est gros n'a plus intérêt à être gros puisqu'il n'y a pas beaucoup de ressources alimentaires. Et par ailleurs, il n'y a pas de grands carnivores. Sur les îles, il n'y a pas de grands carnivores. Donc on n'a plus aucun intérêt à être de grande corpulence pour se défendre des carnivores. Donc les gros animaux vont devenir petits. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien avec les éléphants, par exemple. Dans les petites îles de Méditerranée, il y a 10 000 ans, il y avait tous ces petits éléphants nains, vraiment très très petits, minuscules. Et la grande découverte avec Homo floresiensis, la publication en 2004 d'Homo floresiensis sur l'île de Flores, c'est que ces contraintes adaptatives, elles s'étaient également exercées sur des hommes et avaient donné des effets similaires, semblables chez certains hommes, donc ces Homo floresiensis en particulier.
Sur le temps long de l'évolution, c'est
sur
pas...
Sur le temps long de l'évolution. Mais finalement, alors ça a fait beaucoup de débats à l'époque, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de raison que l'homme n'ait pas pu subir ces mêmes contraintes et aboutir également à des effets similaires constatés chez les autres mammifères, notamment cette réduction de taille. Chez Homo lucenensis, un certain nombre des caractéristiques qu'on observe sont très probablement dues à cet endémisme insulaire, mais on va dire que comparé à Homo floresiensis, ce sont très probablement deux histoires évolutives parallèles, c'est-à-dire sous les mêmes types de contraintes, mais qui ont évolué de façon totalement disjointe. Hein.
Chacun étant isolé, l'homme de Florès étant isolé sur son île et l'homme de
Loussonne
sur la sienne.
L'île de Florès, il y a plus de 3000 km entre les deux îles, hein, donc très probablement...
Pour nous, ça paraît proche, mais ça n'est pas proche du tout.
Ils ne se sont très probablement jamais rencontrés. Ils ont évolué chacun dans leur petit coin, sur leur petite île, subissant les mêmes types de contraintes évolutives et aboutissant à deux résultats, on va dire, encore une fois, pour simplifier, avec des points communs dus à ces contraintes communes, mais des résultats finalement très différents.
Alors ça pose évidemment aussi la question, vous avez parlé d'île, hein, du déplacement de toutes ces populations humaines aujourd'hui disparues, se sont-elles croisées, comment sont-elles arrivées là, hein? C'est une nouvelle question que je vous soumets tout de suite, qui est soulevée par Carole Châtelain du mensuel Science et Avenir.
Homo lusonensis, dont le nom est un petit peu compliqué et difficile à prononcer, a-t-il pu se retrouver sur cette île qui n'était pas accessible à pied sec au Quaternaire ?
Grande question, hein, Florent Détroit. Comment nos ancêtres sont-ils arrivés là ?
Très grande question. Pendant très longtemps, l'hypothèse majoritaire en préhistoire, c'était que seul Homo sapiens, donc nous, était capable de navigation au sens préhistorique du terme, c'est-à-dire capable de franchir des bras de mer conséquents pour atteindre une île. Ça a été quelque chose qui a été une idée très forte dans la préhistoire, avec parfois beaucoup de sous-entendus, c'est-à-dire que nous, Homo sapiens, on est très intelligents, donc on est capable de faire ça, et sous-entendu, les autres espèces, bien sûr, n'étaient pas assez intelligentes et n'étaient pas capables
c'est
de le faire.
C'est d'autres espèces du genre Homo, c'est pour ça qu'elles ont disparu, voilà. Parce que nous, on était bien
Exactement.
Plus capables que or...
Alors maintenant, force est de constater que, alors effectivement, l'île de Loussonne, on a notre Homo loussonensis, il y a 50 000 ans, 67 000 ans, mais un site de plein air sur la même île de Loussonne qui se situe à une vingtaine de kilomètres de la grotte de Calao a livré, ça c'est des travaux qui ont été publiés par des collègues à nous, Thomas Ndjiko et d'autres collègues philippins l'année dernière, ont réussi à découvrir sur un site de plein air dans des niveaux archéologiques datés d'au moins 700 000 ans, des ossements en particulier d'un rhinocéros qui porte des marques de boucherie et des outils de pierre taillée. Alors, on ne sait pas qui était là.
Mais il y avait quelqu'un.
Il n'y a pas de fossiles qui ont été retrouvés jusqu'à maintenant, mais il y avait bien quelqu'un.
Et probablement du genre Homo.
Et il y a plus de 700 000 ans. Donc, il y a plus de 700 000 ans, des hommes sont arrivés sur l'île de Loussonne. On est certain que l'île de Loussonne, même il y a 700 000 ans, n'était pas accessible à pied sec. Donc, ils sont arrivés là. Alors, savoir comment. C'est la grande question. Mais la chose dont on est sûr, c'est qu'ils étaient là. Et en fait, si on regarde d'autres îles d'Asie du Sud-Est, Sulawesi, par exemple, en Indonésie, il y a des datations qui indiquent la présence d'hommes il y a au moins 250 000 ans. Et l'île de Florès, Floresiensis, notre hobbit, il y a également des sites de plein air avec des indices de présence humaine à 800 000 ans et également à 1 million d'années. Donc, on a plusieurs îles dans cette Asie du Sud-Est qui clairement montrent la présence d'hommes très anciennes. Alors, encore une fois, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. On a eu aussi pendant très longtemps l'hypothèse de l'arrivée accidentelle par des rives sur des radeaux naturels. Encore une fois, avec cette idée derrière que
ils étaient bêtes,
ces hommes n'étaient pas capables. Donc, ils sont probablement arrivés là par accident. Sauf que là, ça fait trois îles colonisées parce que. Ils se sont installés de façon à ce qu'on en retrouve les traces 700 000 ans, 1 million d'années après. Donc c'est pas juste un groupe d'hommes qui est arrivé là et hop.
C'est une vraie installation.
Voilà, c'est probablement des groupes bien installés. Donc je vois pas comment on peut envisager au moins trois exemples d'îles colonisées par accident. Alors encore une fois, pour coloniser une île, ça veut dire un groupe suffisamment grand, plusieurs arrivées successives, jusqu'à avoir un effectif suffisant pour fonder une population viable. Donc, encore une fois, le comment, on ne sait pas, mais clairement, je suis de ceux qui pensent qu'il y avait probablement une idée d'intentionnalité et de navigation. Alors encore une fois, il faut faire attention avec ce qu'on entend par navigation, mais une intentionnalité dans le fait d'aller dans ces îles. Chez des ancêtres très anciens, qui n'étaient clairement pas nous, qui n'étaient clairement pas Homo sapiens.
Tout ça bouleverse effectivement tout ce qu'on a longtemps cru. Ça montre aussi que toute cette région tropicale d'Asie du Sud-Est, c'est un autre laboratoire de l'évolution humaine, où il s'est passé autre chose.
On aime bien dire... Alors, on est dans des situations idéales parce que les îles en tant que tels sont des laboratoires d'études fantastiques pour tous les biologistes de l'évolution. Une île, on contrôle tout un tas d'aspects. C'est un petit monde, c'est un mini monde qui est avec des bornes géométriques. C'est vraiment fantastique. Et c'est vrai que ces îles d'Asie du Sud-Est, qui pendant des années avaient été essentiellement fait l'objet de recherches à propos de l'arrivée d'Homo sapiens. Mmh. Parce qu'il y a aussi cette grande question, Homo sapiens arrive en Australie il y a 50 à 60 000 ans, par où ils sont passés? Donc essayer de rechercher les traces du passage des premiers Homo sapiens sur ces fameuses îles d'Asie du Sud-Est. Et j'allais dire par accident, évidemment par accident, on croit chercher des Homo sapiens et on trouve d'autres choses. Et on se rend compte que ces îles avaient des préhistoires, pour beaucoup d'entre elles, très très anciennes et très riches. Qu'on soupçonnait pas auparavant.
D'où la question qui va revenir évidemment, comment et pourquoi il n'y a plus qu'Homo sapiens aujourd'hui sur ces îles d'Asie du Sud-Est, mais sur toute la planète. De quoi s'interroger en musique sur Homo sapiens avec la réunionnaise Morgan G sur RFI.
Je fais la guerre depuis l'âge de pierre, à peine debout que je marche à l'envers. Je ne sais pas comment je suis arrivé sur terre, et pourtant j'ai du flair. Je connais le bruit du vent et le chant de l'eau, et j'aime la chaleur du feu contre ma peau. Mais faut pas venir me chercher des poux dans ma tête d'australopithèque. Sous ma peau de bête, rien ne m'arrête. Je fais la guerre et je croise le fer au nom de celui qui guide ma prière. Un jour viendra où je quitterai la terre, mais j'ai pas à m'en faire. Il y a un jardin paisible et beau, plus haut que les montagnes, plus haut que les oiseaux. Faut pas me dire que je rêve debout dans ma tête d'australopithèque. J'ai un prophète, rien ne m'arrête. Mes frères, à grands coups de hache, à coups de revolver. Je veux plus de tout, surtout plus de terre. J'ai un bateau, je prends la mer.
Homo sapiens, dans la voix de Morgan G sur RFI. Nous sommes en compagnie du paléoanthropologue Florent Détroit, découvreur d'une nouvelle espèce humaine aujourd'hui disparue, l'homme de Luzon aux Philippines, ce qui porte déjà à 6 le nombre d'espèces disparues contemporaines d'Homo sapiens. Alors pourquoi une telle diversité buissonnante et surtout pourquoi aujourd'hui une seule et unique espèce humaine sur Terre? Voilà de quoi nous interroger avec le biologiste, auteur et conteur de sciences Jean-Claude Amezen.
Je crois qu'à la question qui avant était assez simple, qu'est-ce qu'être humain ? La question c'était, quelles ont été les étapes qui ont abouti à la naissance de nous-mêmes, de nos ancêtres, des êtres humains ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être humain ? Une résonance beaucoup plus étrange et beaucoup plus intéressante, c'est combien de façons différentes y a-t-il eu d'être humain ? Et combien de façons possibles y aurait-il pu avoir d'être humain ? Et quelle part portons-nous en nous de ce qui constituait une petite partie de ces autres branches de l'humanité ou de nos ancêtres préhumains.
Combien de façons possibles y a-t-il eu ou y aurait-il eu d'être humain ? La question est vertigineuse, soulevée par Jean-Claude Amezen, Florent Détroit, mais c'est une question qui se pose.
C'est
tout
une question effectivement vertigineuse, qui est passionnante, qui est fascinante. C'est vrai que pendant très longtemps, encore une fois, on se posait même pas la question. On est tout seul, là, sur Terre, Homo sapiens. On sait très bien, c'est facile de reconnaître ce qu'est un Homo sapiens. Et voilà, l'homme, c'est ça, c'est nous, c'est Homo sapiens. Toutes ces découvertes, là, qui s'accumulent, nous montrent qu'effectivement, il y a hier ou avant-hier, par rapport au temps, à la longueur des temps géologiques, il y avait de nombreuses façons d'être un homme, au sens appartenir au genre homo, notre genre à nous. Et donc, il y avait Potentiellement, puisque on réalise maintenant qu'on est tout seul sur Terre, mais c'était pas un objectif, c'était pas une fatalité, c'est un peu le produit du hasard. Il se trouve que on est les seuls à être encore là. Ça aurait tout aussi bien pu être Homo neanderthalensis, ça aurait pu être Homo floresiensis, ça aurait pu. On peut imaginer de nombreuses autres.
Sauf que c'est nous. Alors qu'est-ce que ça dit de nous, les Homo sapiens ? Parce que pourquoi finalement nous avons, je ne sais pas si c'est gagné, hein, mais pourquoi nous avons envahi toute la Terre et pourquoi, là où nous sommes passés, les autres espèces humaines, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ont toutes disparu.
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une indication, c'est que on le voit d'ailleurs quand on le fait le parallèle, on en parlait un peu avant, quand on fait le parallèle avec ces îles. On constate que partout, à chaque fois que Homo sapiens est arrivé dans ces îles, les îles, ce sont des petits équilibres très fragiles, hein, qui se sont créés au cours de l'évolution. À chaque fois, l'arrivée de l'homme a fortement déstabilisé, voire même très souvent très endommagé, ce petit équilibre qui s'était créé naturellement. Donc on se rend compte par là que l'homme, en général, mais Homo sapiens surtout, est une espèce très exigeante, qui a beaucoup de besoins. On sait qu'on a dans notre tête un gros cerveau qui demande beaucoup d'énergie. Donc rien que naturellement, on a besoin de beaucoup de fortes consommations d'énergie. Et ensuite, ce qui s'est passé, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'est un très fort accroissement de la démographie.
D'Homo sapiens.
Aujourd'hui, évidemment, on est partout. Il y a des Homo sapiens partout. Si on remonte 50 000 ans en arrière, donc à l'époque de nos Homo lucenensis ou d'Homo floresiensis, Homo sapiens n'était certainement pas partout. Il faut imaginer des petites populations un peu partout dans le monde, qui bougeaient parfois, qui restaient. Et à certains moments, cet Homo sapiens est celui qui a connu la croissance démographique la plus forte.
Parfois en se mélangeant d'ailleurs, avec ces autres populations.
Ce qui a provoqué volontairement ou très probablement involontairement, finalement, l'extinction des autres espèces, alors parfois en se mélangeant un peu à la marge avec ces autres espèces, et parfois, alors peut-être par cette trop grande exigence en calories, j'allais dire, finalement écraser les autres populations humaines de la même façon que involontairement on fait disparaître tout un tas d'espèces.
Et oui, parce que finalement ça fait vraiment écho à notre crise de la biodiversité aujourd'hui, à nos 7 milliards, bientôt 8 d'humains, d'Homo sapiens sur Terre. On est une espèce envahissante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
On est une espèce envahissante et c'est vrai que c'est une idée qui m'est venue comme ça. La comparaison d'Homo sapiens qui arrive sur une île et qui très vite va déstabiliser totalement l'équilibre naturel de cette île, nombreuses espèces s'éteignent. On peut se demander si finalement la Terre n'est pas aujourd'hui une espèce d'immense île où il y a beaucoup trop, j'allais dire, d'Homo sapiens. Et alors évidemment, ça prend beaucoup plus de temps que dans une petite île, mais petit à petit, on constate que on a totalement tout déstabilisé cet équilibre et que les espèces s'éteignent à l'échelle de la Terre, de la même façon que par le passé, elle s'éteignait seulement, j'allais dire, dans des petites îles, dans des petits coins du monde.
À méditer, à réfléchir, à interroger. Merci infiniment, Florent Détroit, d'être venu en direct partager un peu de cette humanité disparue, donc Homo lucenensis, découvert sur l'île de Luzon aux Philippines. Pour en savoir, pour en voir plus, les liens et les photos sont sur notre page. Et puis vous revenez quand vous voulez pour nous présenter d'autres ancêtres d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique australe, puisque je crois que vous travaillez aussi en Namibie. Merci à vous, Florent.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour découvrir le lauréat de notre jeu concours autour de la question pourquoi viser la Lune et comment gagner une lunette astronomique, émission festive et lunaire. À suivre demain en compagnie des astronomes membres du jury et de notre petite équipe, Caroline Lachowski, Hugo Violas et Caroline Fillette. Merci de votre fidélité, de votre interactivité, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI dans une minute, le prochain journal.